Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Comment préserver la biodiversité en milieu urbain ? En Bretagne, plusieurs villes, avec l'aide d'associations environnementales, prennent soin de ce que l'on appelle les refuges urbains pour la biodiversité. Nous en parlerons dans quelques minutes en entretien avec Luc Guillard de l'association Bretagne Vivante. Mais avant cela, direction Brest et plus précisément le quartier de Lambézélec, où l'on prend soin des fontaines et anciens lavoirs qui hébergent faune et flore en abondance. C'est un reportage de Jean Causeur à Radio Évasion, votre radio associative au Fou et dans sa région. Écoutez.
Dans ce genre de lavoir, il y aurait un peu plus d'eau et un minimum d'entretien autour de la végétation. On pourrait voir pas mal de plantes intéressantes et de petites bêtes aussi de faune. En plantes intéressantes, on en voit quand même quelques-unes là qui sont typiques des zones aquatiques et des lavoirs. Donc les petites lentilles d'eau qu'on voit là-bas sur cette zone-là, du cresson des fontaines qu'on voit aussi un petit peu en fleurs, avec des petites fleurs blanches là. Ça, c'est des plantes qui sont très courantes dans les lavoirs, qui peuvent être envahissantes quelquefois, donc qui demandent un peu d'entretien. Voilà. Et certaines plantes peuvent être très très envahissantes, très très envahissantes. Le cresson des fontaines, par exemple, ça peut être très très envahissant. Et si l'entretien n'est pas fait à petite dose quand il le faut, on va être obligé de tout virer au début de l'été et de vidanger. Là, on vidange complètement le lavoir, ce qui fait que s'il y a un petit peu de vie animale dedans, tout disparaît. Voilà. Donc, c'est pas très simple. L'entretien des lavoirs, c'est pas très simple. Et donc, à partir du moment où beaucoup de ces lavoirs sont entretenus par les services de la ville de Brest. Et à partir du moment où on décide de garder un lavoir en eau, ça demanderait, il faudrait toute une réflexion pour voir comment faire pour y garder de la vie, si on décide d'en faire des vraies zones humides. Urbaine, ce qui est intéressant parce que d'abord c'est des zones de fraîcheur et puis des zones de biodiversité intéressantes pour les curieux, au niveau pédagogique aussi, voilà. Et vous me demandez ce qu'il pouvait y avoir sinon au niveau de la vie, au dehors de la végétation. Donc à partir du moment où il y a de la végétation, il peut y avoir de la faune. Sur celui-ci par exemple, quand on est venu par là l'été dernier, il y avait des gérisses, c'est des petits insectes qui marchent sur l'eau là. Vous voyez ce que c'est assez rigolo. Mais bon, là, les gérisses, ils peuvent pas venir, ou ils vont passer, mais ils vont pas rester parce qu'il y a pas assez de surface. Voilà. Et puis il peut y avoir pas mal d'insectes, comme les libellules par exemple. Alors moi, j'ai trouvé ça extraordinaire l'an dernier quand on a fait le tour des lavoirs, de trouver des libellules en pleine ville. Ça, c'est extraordinaire. Alors, pas dans celui-ci, parce qu'il y avait pas, il n'était pas suffisamment entretenu, mais des petites libellules rouges, les petites nymphes au corps de feu, qui sont très, très adaptées pour ce genre de milieu. Donc, ces libellules-là, elles ne vivent pas dans le lavoir quand elles sont en forme adulte, mais elles vont revenir dans le lavoir pour pondre dans le lavoir. Et donc, là, dans le lavoir, on va trouver des larves de libellules. Alors on va les voir ou on ne va pas les voir, mais on va voir des libellules repasser. Voilà, donc pour ça, je trouve que de voir des libellules en ville, moi je trouve que les libellules, c'est un insecte extraordinaire. Et je trouve que c'est fantastique pour les enfants, puis pour les adultes, pour tous les curieux de nature. C'est fantastique de voir ces petites bestioles venir en pleine cité, quoi.
On peut trouver aussi quelques amphibiens, comme grenouilles, crapauds, salamandres.
Alors, les amphibiens, ils arrivent en général, par exemple, on trouve facilement des salamandres, enfin des jeunes salamandres, parce que les salamandres adultes ne vivent pas dans l'eau, des jeunes salamandres et des tritons. Le triton palmé, souvent, qu'on trouve facilement dans les lavoirs. Et les tritons palmés, ils arrivent souvent, je pense, par les fontaines. La fontaine, là, est dans le coin, là-haut. Voilà. On peut en voir dans la fontaine. Et quand il y en a dans la fontaine, il peut y en avoir dans l'eau, suivant l'entretien qui est fait du lavoir. Et par contre, les salamandres, ça va être plutôt dans des zones qui sont un petit peu boisées autour, qui ont de la végétation et de l'ombrage. Par exemple, ici, ça pourrait très bien, il pourrait très bien y avoir des salamandres. S'il y a des bois pas trop loin et de l'ombre autour du lavoir, elles peuvent venir s'installer là. Et puis venir pondre donc, au cours de l'hiver. Et on va voir des larves, des jeunes salamandres. On va en voir quasiment toute l'année dans les lavoirs qui sont en eau. Par contre, les tritons, ils vivent dans l'eau presque toute l'année. Ils vont sortir un petit peu. S'il y a de la végétation autour, mais juste autour du lavoir, ils vont passer peut-être quelques mois dans les herbes quand il fait très froid ou à certaines périodes de l'année. Mais ils vont vivre la majorité du temps dans les lavoirs. Et ceux-là, on peut les voir aussi assez facilement. Sans aller patouiller, on peut les voir. On n'a pas le droit de les pêcher. Ce sont des espèces protégées, tous les amphibiens. Mais on peut les observer.
Voilà pour cet exemple de refuge urbain dans ce lavoir du quartier de Lambézélec à Brest. Un sujet signé Jean Causeur à Radio Évasion au Fou dans le Finistère. Alors pour aller plus loin sur ces refuges propices à la biodiversité, nous recevons aujourd'hui Luc Guillard, éducateur à la nature, chargé d'études et formateur à Bretagne Vivante à Brest. Bonjour Luc Guillard.
Bonjour.
Alors, on vient d'entendre Ghislaine Hérault dans ce reportage, également de l'association Bretagne Vivante. Ghislaine qui nous guidait dans cet ancien lavoir devenu refuge de la biodiversité. Que pensez-vous de cet exemple qu'on vient d'entendre? Est-ce qu'il est emblématique des zones de biodiversité qu'on peut retrouver un petit peu partout en milieu urbain en Bretagne?
Alors oui, il est assez emblématique en fait des espaces de biodiversité je dirais qu'ils vont nous intéresser, où on va aller faire les curieux en premier, parce qu'en fait, on est à peu près sûr à chaque fois, dans la mesure où il y a de l'eau, comme le dit Ghislaine, de découvrir des choses très intéressantes en fait. Ce sont vraiment des espaces refuges et indispensables à la vie de certaines espèces.
Alors là, c'était l'exemple d'un lavoir, mais est-ce qu'il y a bien d'autres exemples de types de refuges que l'on peut trouver en ville?
Ah oui, il y en a une multitude en fait. La ville est perçue comme étant très minérale, très 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 artificielle forcément par nature. Mais comme les lavoirs qui sont des structures artificielles, on les a créés, on les a construits, ils ont été maçonnés, voilà. Et en ville, il y a plein d'endroits, des interstices où la nature est présente.
Alors par exemple, si on peut donner quelques exemples un peu divers et variés.
Par exemple, ça peut être tous les vieux murs. De tout un tas de structures, vieux bâtiments, dans une rue, je ne sais quoi, qui sont des paradis en fait, de biodiversité. Ça peut être ce qu'on avrait appelé une délaissée un peu techniquement, pour ne pas dire la friche. Ouais. Tous les petits coins de friche, tous les petits ronciers sont des espaces de biodiversité ordinaire, peut-être plus ordinaire que ce qu'on va trouver dans un lavoir, mais qui sont des lieux super riches, en fait.
Alors, ces milieux, ces refuges, comme on les appelle depuis le début de l'émission, ils sont à préserver. Quel est le rôle de votre association Bretagne Vivante, justement, pour pousser à cette préservation de ces lieux, refuges de la biodiversité en milieu urbain?
Notre rôle, il va être de plusieurs ordres, en fait. Je dirais qu'on va faire ce que fait historiquement Bretagne Vivante depuis très très longtemps, c'est de la protection. Ensuite, mais cette action de protection en fait se fait aussi beaucoup à travers la sensibilisation, l'information. Et puis on va aussi explorer ces espaces-là pour acquérir des informations Alors là, ça va être des inventaires, hein, ce qu'on fait, Ghislaine et les collègues brestois, sur l'identification des plantes, l'identification des êtres vivants présents, hein, de la faune. Et on va se servir de ces informations pour justement identifier les espaces qui méritent peut-être le plus de protection, qui sont à protéger urgemment, puisque peut-être concernés par des projets d'aménagement, par exemple, qui ne les prendraient pas en considération. Donc on va aussi informer les porteurs de projets sur ces éléments à prendre en compte, quoi.
Alors justement, le type d'acteur que vous avez à sensibiliser, voire même à convaincre, c'est qui ?
Ils sont de plusieurs natures. On va ratisser large, hein. Il y a les particuliers, il y a les collectivités, il y a les acteurs privés, les entreprises, parce que sur les emprises des entreprises, il y a aussi des espaces de nature, des espaces calmes, tranquilles. Donc voilà encore des acteurs qui sont aussi concernés par le message qu'on peut porter, quoi.
Alors, il y a différents acteurs et différents usages. Parfois, il peut y avoir aussi des difficultés à convaincre certaines personnes parce qu'elles utilisent ces lieux aussi pour autre chose que la préservation de la biodiversité.
Oui, oui, parce qu'en fait, dans ces espaces urbains, hein, le lieu qui nous concerne, il y a beaucoup d'humains qui mènent différentes activités. Il y a des attentes différentes, il y a des regards différents sur ces espaces-là, des usages différents. Nous, on porte cette place que l'on aimerait réserver à la biodiversité, qui suppose souvent plutôt du calme, plutôt de modifier des pratiques de gestion. Et parfois, c'est un peu long à mettre en place, c'est difficile de changer ses habitudes. Et on va appeler à ce moment-là sous le beau terme de conflit d'usage. Il y a un petit exemple du côté d'Ennebon où un lavoir est repéré comme étant super intéressant pour les amphibiens. Donc on va laisser la végétation, on va faire attention au niveau d'eau, tous ces éléments-là. Mais il y a d'autres personnes, tout aussi respectables, qui, eux, ont un autre usage du lavoir et qui l'utilisent pour montrer comment on faisait la lessive avant, quoi.
Et donc, avec du produit, forcément, pour laver leur linge ou...
Pas sûr, parce que si c'était comme avant, comme ma grand-mère...
Au savon.
Ouais, c'est au savon, au bleu azurant, à la cendre, je ne sais pas moi comment ils font. Ça peut être vachement intéressant d'ailleurs à voir. Mais voilà, il faut trouver le moyen terme pour que, en gros, tout le monde trouve sa part autour du lavoir, quoi.
Oui, parce que dans le lavoir, on retrouvait aussi des espèces.
Oui, voilà. Bien sûr.
Ok. Alors justement, dans le message que vous essayez de faire passer, quelle est l'importance ? Qu'est-ce que vous dites pour expliquer l'importance de préserver, d'entretenir, mais aussi de sanctuariser ce genre de bâti urbain, ce genre de refuge pour la biodiversité en ville ?
Eh bien souvent, on va d'abord montrer qu'il y a de la biodiversité en ville, que la ville n'est pas un désert, loin de là, et qu'on se rend compte de plus en plus qu'on peut la considérer comme une zone refuge, en fait. Et qu'il y a pas mal d'espèces qui vont trouver en ville les ressources qu'elles n'ont plus à la grande périphérie de la ville, pour le faire court, hein, en gros dans l'espace agricole ou en périphérie urbaine. Et donc la ville va jouer ce rôle, en fait, d'accueil. Elle a une belle capacité d'accueil dans ces fameux interstices dont je parlais tout à l'heure. Et donc... La prendre en compte, en être conscient, va permettre d'abord de la conserver, d'avoir à son contact des éléments de biodiversité qu'on va pouvoir observer. Plein de témoignages de gens qui sont super contents de croiser le renard le matin quand ils vont au boulot, quand ils se déplacent, de bonne heure. C'est super fréquent, hein. Que ce soit à Nantes, à Rennes, on va recueillir plein de témoignages là-dessus. Et puis, nous, on trouve que c'est très important ce contact avec la nature au plus près. Alors nous, on le trouve important d'un point de vue, de notre intérêt, et puis surtout, c'est notre nature, quoi. Par contre, mais c'est même pour les médecins, c'est très bien. Médicalement, c'est démontré que c'est bien d'être au contact de la nature aussi. C'est pour notre bien-être, en fait.
Il y a une chose assez surprenante qui a sans doute surpris nos auditeurs dans ce que vous avez dit il y a quelques instants, c'est qu'il y a des espèces qui ne trouvent plus bonheur, en fait, en périphérie ou dans l'espace rural et qui préfèrent venir en ville. Ça paraît étonnant d'entendre ça.
C'est assez étonnant parce que l'espace rural, notamment en Bretagne, hein, 80% du territoire, je crois, est concerné par l'agriculture. Et en fait, sans jeter la pierre à l'activité agricole, hein, c'est une orientation, une vocation ancienne de notre territoire. Mais son développement, son évolution fait que la façon dont organiser l'espace agricole, la simplification de l'espace agricole, moins de haies, moins de talus, beaucoup d'espaces très cultivés intensivement, hein, eh bien, font que ces espaces-là sont moins accueillants pour un tas d'espèces. Et qu'ils ont, la zone refuge, ça a été la ville, en fait.
Et pourtant, on a cette image de la ville, pollution, qui peut perturber les espèces, l'éclairage.
Oui, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que la ville, elle soit... c'est pas le paradis total. Je parlais des renards urbains tout à l'heure. Leur espérance de vie, elle est quand même moins... C'est mesuré par des études sur Nantes. Elle est moins importante quand même que dans l'espace rural, où il en reste quand même. Mais les progrès que l'on peut faire en ville, c'est justement amoindrir encore ces points que vous avez soulignés pour améliorer l'accueil, quoi.
Okay.
On sait qu'on a une belle marge de progrès et qu'il y a du potentiel.
Et c'est une bonne nouvelle puisque finalement, il y a plus de 80% des personnes qui vivent en ville sur nos territoires.
Bah exactement, c'était l'idée de mon propos tout à l'heure. Nous, on milite pour ça dans l'association, dans tous mes collègues éducateurs à l'environnement, œuvrent pour rapprocher les gens de la nature, les réconcilier avec la nature, leur permettre d'avoir des souvenirs dans la nature en fait.
Est-ce que vous sentez aujourd'hui, et en particulier en Bretagne, un bouillonnement nouveau, une prise de conscience nouvelle sur ce sujet de ces refuges urbains, de cette biodiversité en ville? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez évoluer depuis plusieurs années désormais? Ou est-ce qu'il y a encore des freins importants à ce que...
Oui, je crois qu'il y a encore quand même pas mal de travail d'information, de sensibilisation, de mise à disposition de nos connaissances et notre expertise, si on veut, là-dessus. Alors, la nôtre, à Bretagne Vivante, mais l'expertise de tout un tas de... C'est une grosse chance en Bretagne. Il y a plein d'acteurs, en fait, associatifs qui travaillent sur ces sujets-là. Les collègues de Vivarmor, le groupe Mammalogique Breton, Eau et Rivières de Bretagne, enfin, si j'en oublie, je m'excuse, la LPO.
Ouais, il y a une constellation d'organisations, d'associations environnementales qui sont mobilisées là-dessus.
Des grandes, des petites, des moyennes. Il y a un tas d'acteurs dans les collectivités aussi qui travaillent dans ces sujets-là, qui sont dans des services espaces verts. Le service écologie urbaine, par exemple, à Brest. Le service... jardin et biodiversité, je crois, à Quimper. Donc dans les noms, ça bouge aussi, c'est bien. Dire que ça bouillonne, je ne sais pas trop, parce que je ne sais pas si on a un bon état des lieux de tout ça, mais il y a beaucoup d'initiatives, pas forcément bien identifiées d'ailleurs, un peu partout. Et c'est vrai que la thématique biodiversité monte en puissance dans cette prise de conscience. Il y a une étude du Césaire assez récente qui dit que la biodiversité doit... infuser toutes les politiques des collectivités, politiques régionales, c'est un constat. On dépend de la biodiversité, on en est une composante. La biodiversité, il y a quelqu'un de l'association qui dit, qui est l'orienté d'ailleurs, qui dit la biodiversité, c'est notre assurance vie en fait. Donc, ouais, en ville, il y a plein de cartes à jouer là-dessus, quoi.
La biodiversité, c'est notre assurance vie. On va retenir cette expression. Parmi les freins, est-ce qu'il y a aussi des mauvaises habitudes du passé? Alors, je parle aussi bien dans l'entretien des espaces verts par les collectivités que pour les particuliers dans leur jardin. Voilà, est-ce qu'il y a des mauvais réflexes qui sont un petit peu difficiles à changer aujourd'hui?
Oui, en fait, les freins sont toujours assez serrés. Alors après, c'est un peu générationnel. Bon, là, je suis désolé, parce que ça va être un petit peu caricatural.
Allons-y un petit peu,
dire,
alors.
Ouais. Mais je dirais qu'il y a des générations plus anciennes ont un regard sur leur environnement qui est très marqué, quoi. Et il faut que ce soit propre, il faut que ce soit au cordeau, il faut que ce soit carré. C'est une image, en fait.
On coupe sa pelouse tous les 15 jours.
Ouais, quoi. Voilà, ouais. Une action assez intensive, parce que ça va être, on trouve, enfin, c'est beau, quoi. C'est très difficile, parce que les esthétiques varient suivant les gens. Hein. Voilà. Et puis, on voit arriver un autre regard, parce que les gens, les plus jeunes, les jeunes générations, constatent qu'ils peuvent être des acteurs de la prise en compte de la biodiversité sur leurs espaces, qui ne sont pas bien grands quelquefois, ça peut être un tout petit jardin, voire un balcon. Et là, ben, ils vont modifier en fait leur pratique et adopter des pratiques qu'on les appelle plus extensives. En gros, ils vont moins faire d'actions de gestion, ils vont moins entretenir. C'est pas forcément toujours bien vu d'un bon œil par l'entourage.
Ouais, c'est ça, en termes de paysage, en termes de,
ah ouais,
de copropriété.
Ça fait sale.
Ouais.
Ouais. Mais si on laisse s'exprimer la biodiversité, bah les meilleurs endroits pour la biodiversité, c'est les zones un petit peu fouche-trouille, comme on dit, un peu exubérantes. Avec bah, des ronces, par exemple, avec des herbes qu'on qualifie un peu trop vite, à mon avis, de mauvaises herbes, puisque ça n'existe pas, les mauvaises herbes. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on bouge un petit peu sa perception des choses. Et donc, il y a un frein assez fort là-dessus. Et donc, c'est la connaissance, c'est l'appropriation de comment ça fonctionne, donc ce qu'on peut apporter, nous, les associations. Ne pas en avoir peur de ça. On dit, on va se faire envahir. Non, on ne va pas se faire envahir. On a le droit de gérer son espace, mais il faut lever le pied, quoi. Et à ce moment-là, on va pouvoir être plus accueillant pour la biodiversité. Mais elle va être banale, hein. Rouge-gorge, troglodyne mignon, les orvets, plus de vers de terre dans le jardin, des choses comme ça.
Justement, les retours d'expérience que vous avez sur les bonnes pratiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans les villes, est-ce que la biodiversité revient de façon spectaculaire ? Comme ça, sur les zones urbaines.
Bah c'est pareil, c'est pas une question à laquelle il est facile de répondre. Peut-être, elle est comme le comment dire, l'idée de la prise en compte de la biodiversité monte depuis peu de temps en fait, dans la foulée justement de l'abandon des produits phytosanitaires, là, les biocides.
Le programme Phyto Zéro.
Et voilà, les zéro phyto, tout ça. Ouais. On mesure pas bien en fait ce qu'il en est. On n'a pas encore tout à fait sorti des instruments de mesure. Ça va peut-être se faire justement à travers les atlas de la biodiversité communale. C'est un peu un des objectifs.
Les 46 communes, hein, c'est
voilà,
ça en
c'est
Bretagne
ça, ouais.
Qui sont concernées par ces atlas, qui
ouais.
sont des études finalement de ce qu'on peut faire et de ce qui est des conséquences de bonnes pratiques.
Voilà, l'idée c'est de faire un état des lieux en fait de ce qu'on connaît de la biodiversité sur la commune. Il faut le faire plusieurs années. C'est pour ça que je ne peux pas répondre à votre question, parce qu'en fait, c'est au bout d'une dizaine d'années de suivi, comme ça, qu'on va pouvoir dire, bah, tiens, on a une tendance. Aux USA, ça fait 120 ans qu'ils comptent dans leur jardin. Nous, ça va faire 10 ans en Bretagne.
Ouais, un petit peu de retard, effectivement. Quelles sont les villes en Bretagne qui seraient un peu les bons élèves, justement, en termes de refuge de la biodiversité, qui ont pris les choses assez à bras-le-corps?
Alors, c'est pareil, c'est une question un peu piège. Et puis, je notais bah, qu'on nous, association, on n'est pas là pour... On n'est pas le jury qui distribue les points, bien sûr, puisqu'on est plutôt... Nous, on va accompagner tout le monde. Si quelqu'un est mauvais élève, peut-être parce qu'on l'a mal accompagné aussi. Donc voilà. Mais, ceci étant dit, il y a... alors, comme je disais tout à l'heure, on ne connaît pas tout. Mais il y a des gens qui ont initié des démarches depuis longtemps. Moi, je suis très centré sur Brest, en fait, et les espaces verts de Brest, de la ville de Brest et de Brest Métropole sont engagés sur le terrain de la biodiversité depuis 15-20 ans au moins, quoi. Pareil sur Rennes, pareil sur Nantes. Donc ces grandes structures-là ont intégré ces approches dans leur pratique, se sont formées. Et Quimper aussi, je sais, a développé des choses. Et je sais que je vais en oublier beaucoup. Donc
peut-être Saint-Malo aussi, vous en parlez.
Oui, voilà, en périphérie de Saint-Malo, je crois que c'est Saint-Lunaire a développé aussi des choses. Il y a beaucoup d'initiatives. Elles ne sont pas forcément totalement recensées. C'est peut-être dommage d'ailleurs, parce qu'on saurait mieux en fait ce qui passe. Une idée qui me vient en tête, le réseau Brudet également porte des initiatives dans son réseau sur ces thématiques environnementales en sens large, dont la biodiversité en fait.
Il y a aussi comme des freins. Alors il y a la bonne volonté des gens, des collectivités, des entreprises. Ok, on a compris, on fait de la biodiversité près de chez nous, en ville, en milieu urbain, en milieu périurbain. Mais il y a aussi des freins externes. Est-ce qu'il y a, par exemple, des logiques économiques, des aspects réglementaires? Je pense notamment au BTP, par exemple. Mmh. Est-ce que ça freine un petit peu le développement de la biodiversité dans les milieux urbains?
Alors, on ne va pas trop le considérer comme un frein, notamment l'aspect réglementaire, parce que justement, il y a une obligation de prise en compte de la biodiversité. Donc, les travaux nous qu'on mène, par exemple, avec les carriers ou avec les travaux publics, font que quand ils réalisent leur chantier, il y a eu un travail en amont d'inventaire, d'expertise, qui ont mis en évidence, justement, au moins, à minima, les espèces patrimoniales qu'il faut prendre en compte. Et on va rentrer souvent, à chaque fois, dans la logique de la compensation de l'atteinte portée à la biodiversité sur des espèces remarquables. Où on poursuit d'ailleurs avec eux un travail poursuit un travail de sensibilisation et de formation, c'est sur la prise en compte de la biodiversité qu'on qualifie d'ordinaire. En gros, il n'y a pas de contrainte réglementaire pour sa prise en compte. Comment peut-on faire pour diminuer l'impact que l'on peut avoir sur ces éléments de biodiversité banals à travers son action, enfin son travail, quoi. Et donc, on le fait depuis plus longtemps avec les carriers, et il y a un travail qui s'amorce là avec la Fédération des travaux publics de Bretagne, en fait. Et donc, ça veut dire que là, ils prennent conscience qu'eux aussi ont un rôle à jouer sur la biodiversité.
Donc ça s'intègre également dans toutes les filières, petit à petit, en ville.
Oui, oui.
Ça, c'est intéressant. Alors justement, vous parliez d'information. Il faut que ces personnes soient d'abord informées pour pouvoir agir. Quels seraient les sites de référence ou les organismes de référence? Il y a Bretagne Vivante, bien sûr, mais qui pourraient justement aider que ce soit un particulier, une entreprise, une collectivité, à prendre conscience des choses et à savoir surtout comment s'y prendre?
Oui, alors y a une structure en fait qui est assez de création assez récente. Là, c'est l'Agence Bretonne de la Biodiversité. Et elle a cette vocation de fédérer, d'inventorier les expériences à droite à gauche pour pouvoir porter ces exemples à la connaissance de tout le monde, quoi. Donc il y a ça. Après, il y a aussi la connaissance des acteurs cités, comme les associations de protection de la nature, qui, eux, sont en lien sur leur territoire avec tout un tas d'autres acteurs et qui ont aussi identifié ça. Je pense aussi, par exemple, aux syndicats de bassin. Les syndicats de bassin engagent aussi des actions sur leur territoire et identifient également les expériences en cours. En fait, il y a beaucoup de tuyaux possibles. Les communautés de communes, qui ont des services, qui ont la compétence environnementale, vont aussi informer les citoyens, en fait.
Très bien. Bon, ça fait une constellation, en tout cas, de possibilités d'information.
Plein de chemins à suivre. Ouais.
Bon. Luc Guillard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes éducateur à la nature, chargé d'études et formation à Bretagne Vivante, à Brest. Le site internet de Bretagne Vivante, si je ne me trompe pas, www.bretagne-vivante.org, c'est
oui,
bien ça?
Oui, il va être bientôt refait.
Il va être bientôt refait. Information importante. Merci également à Emmanuel Gomila de Radio Balise à Lanester, près de Lorient, pour la réalisation technique de cet entretien. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Biodiversité en Air. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité en Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.